pied des usines.
Et qu'est-ce qu'on peut faire alors pour lutter contre ces discriminations ?
Certains voyageurs ont décidé de monter des collectifs pour faire changer les choses. Par exemple, le collectif de femmes d'Hélène Ronchin, près de Lille. Enfin, il faudrait une volonté politique de travailler sur la place du voyage en France pour qu'il ne soit plus appréhendé comme un mode de vie parasitaire. Quand un voyageur lutte pour son droit de circulation, il lutte au fond pour toutes les personnes qui vivent en habitat mobile léger et pour tous ceux qui veulent vivre autrement.
Merci beaucoup Alexandre Reza-Kokabi. On retrouve donc cet article sur le site de Reporter, reporter.net, le quotidien de l'écologie. On se dit à très bientôt.
Bon après-midi.
Merci à vous aussi.
La Terre au carré continue sur franceinter.fr et sur les réseaux sociaux. À suivre sur France Inter, toute l'équipe du 5-7. Inter, c'est aussi une application mobile.
Une bibliothèque sonore unique avec des programmes originaux et des archives.
Mettez France Inter dans votre mobile.
Téléchargez l'appli.
C'est gratuit sur l'App Store et Android.
Nous sommes le mercredi 14 avril. France Inter, il est 5h.
France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Bonjour, nous sommes à 100 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, des Jeux complètement chamboulés par l'épidémie de Covid, la préparation des athlètes aussi. C'est ce que vont nous raconter nos deux invités à 6h20, Stéphane Houdet qui est joueur de tennis en fauteuil roulant et Manon Audinet qui est navigatrice. À suivre également notre coup de fil déjà debout dans un bar à vin new-yorkais qui met les femmes vigneronnes à l'honneur. Des histoires d'amour dans les bulles de BD, des romances entre filles à la sauce manga. Dans l'esprit d'initiative, des containers transformés en mini-musées et dans les captures d'écran, la nouvelle série Netflix qui cartonne, Le Serpent avec Tahar Rahim. Bon réveil et bienvenue dans les petits matins de France Inter.
France Inter.
Le journal avec Morgane Klein-Refait. Bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous.
Les tout derniers vols en provenance du Brésil arrivent à Paris ce matin avant suspension des liaisons.
Le gouvernement français s'est finalement résolu à cette option réclamée par l'opposition pour éviter l'arrivée du variant brésilien plus virulent dans l'Hexagone. Il est pour l'heure très minoritaire. Certains se sont donc précipités hier soir sur les deux derniers vols qui partaient de Rio, soulagés de pouvoir encore embarquer à Nvinia.
D'abord, il y a les touristes français qui, comme Romaine, ont fait leur valise dès que le Premier ministre a annoncé l'annulation des liaisons aériennes avec le Brésil.
Ça faisait presque 3 mois que j'étais à Rio. Et donc là, j'avais prévu, mon vol était pour demain. Mais au vu des mesures, j'ai paniqué et donc je suis arrivée à l'aéroport pour partir aujourd'hui, pour être sûre de pouvoir rentrer.
Puis il y a des résidents français, comme Geoffrey, qui devaient rentrer en France pour des cas d'urgence.
J'habite ici, j'ai mon business. Et là, je vais en France parce que mon papa est très malade. Et là, je suis bien content que ce soit possible, parce qu'apparemment c'est le dernier. Il n'y a pas beaucoup de capacité d'anticipation. C'est toujours un peu réactif au lieu d'être proactif.
Enfin, il y a beaucoup de Brésiliens résidant au Portugal, mais qui n'ont plus de liaison directe et ont du mal à accepter que le monde leur ferme les portes, à l'image de Simone.
Je trouve que c'est une erreur le fait de vouloir tout fermer, comme si on pouvait fermer le monde. Il faut se protéger, se vacciner et affronter le virus. Fermer, pour moi, ce n'est pas une solution.
Le terminal international de Rio, déjà bien désert, ne devrait plus avoir de liaison avec l'Europe, alors qu'il ne reçoit déjà plus de vols ni de l'Amérique du Nord, ni de l'Amérique du Sud. Rio de Janeiro, Nvinia France Inter.
La France prévoit néanmoins des vols spéciaux pour rapatrier les Français qu'ils souhaitent s'ils ont une justification. Précision hier soir du secrétaire d'État aux affaires européennes. C'est un nouvel obstacle sur la route de la vaccination anti-Covid. Le laboratoire Johnson & Johnson reporte le déploiement de son vaccin en Europe. Les autorités sanitaires américaines recommandent de le suspendre le temps d'étudier des liens possibles avec 6 cas de thrombose. 200 000 doses devaient être livrées en France dans les prochains jours. prochains jours. Les États-Unis, en revanche, vont pouvoir compter sur plus de doses de Pfizer. Le groupe va leur en livrer 10% supplémentaires d'ici la fin mai.
France Inter 5h03, le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire présenté aujourd'hui en Conseil des ministres.
Première loi portée par Éric Dupond-Moretti comme garde des Sceaux, fraîchement accueillie par les magistrats qui déplorent son côté fourre-tout et l'absence de consultation. Au menu, audience filmée, renforcement du secret professionnel et généralisation des cours criminelles, des tribunaux sans jurés populaires pour certains crimes, des jurés que défendait pourtant le ministre de la Justice lorsqu'il était avocat, Corinne Audouin.
À partir de 2022, tous les crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion criminelle passeront donc devant des magistrats professionnels. Sur les réseaux sociaux, les avocats pénalistes, anciens proches d'Éric Dupond-Moretti, s'étonnent. Le pouvoir politique rend amnésique, vitupère Franck Berton. Il a des convictions, le problème c'est qu'il en change souvent, ironise Christian Saint-Palais. Les jurés populaires, défendus avec ferveur par le garde des Sceaux quand il était avocat, ne jugeront que les crimes les plus graves. Le ministre s'est plié à un principe de réalité, les cours criminelles permettent d'aller plus vite. À Versailles, où la cour criminelle fonctionne depuis 18 mois, une trentaine de procès se sont tenus et ont dissipé les craintes des avocats, le bâtonnier Frédéric Champagne.
Nous, ce que l'on craignait, c'était vraiment la dérive de la cour d'assises, qui, vous savez, est chère au cœur des pénalistes. On craignait que la cour d'assises ne devienne un grand tribunal correctionnel, ce qui n'est pas le cas. C'est plutôt une petite cour d'assises, en termes d'enquêteurs, de témoins, d'experts, etc. C'est un procès criminel comme les autres.
Avec la généralisation, le problème sera de trouver suffisamment de magistrats. Il en faut 5 pour un procès devant la cour criminelle. La loi ouvre la possibilité à des avocats honoraires de siéger aux côtés des juges.
Le Parlement étudiera le texte en procédure accélérée le mois prochain. Après l'Assemblée hier soir, le Sénat doit dire aujourd'hui s'il soutient le maintien des élections régionales en juin. Finalement, décalé d'une semaine, vote prévu les 20 et 27 juin. Pour simplifier l'organisation du scrutin, le Premier ministre veut faciliter la vaccination des assesseurs et généraliser l'ouverture des bureaux de vote jusqu'à 20h. L'enquête pour retrouver la petite Mia enlevée hier matin dans les Vosges se poursuit. Le plan alerte enlèvement a été déclenché hier soir avant d'être levé dans la nuit. La fillette de 8 ans a été kidnappée par 3 hommes. Sa mère, qui a interdiction de la voir seule, pourrait se trouver avec elle.
C'est une décision qui risque de tendre un peu plus les relations entre l'Iran et les États-Unis.
Téhéran compte enrichir à partir d'aujourd'hui de l'uranium à 60% contre 20% jusque-là, un niveau qui le rapproche d'une capacité d'utilisation à des fins militaires. Washington dénonce une annonce provocante, mais se dit prêt à poursuivre les négociations sur l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, discussion qui devait reprendre aujourd'hui, finalement reportée à demain. En Afghanistan, pas de retrait des troupes américaines pour le 1er mai, mais d'ici le 11 septembre finalement. Le président américain Joe Biden juge difficile de tenir les engagements pris par Donald Trump. En réaction, les talibans annoncent boycotter un sommet sur le futur du pays prévu en Turquie prochainement.
Le PSG qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions.
Les footballeurs parisiens ont perdu 1-0 hier soir au Parc des Princes face au Bayern Munich pour le quart de finale retour, mais ils décrochent malgré tout leur ticket pour le dernier carré grâce à leur victoire à l'aller 3-2. C'est la troisième fois seulement dans l'histoire du club. Alors ces supporters réunis en petits groupes malgré le couvre-feu pour vivre ce match était aux anges, Emma Sarango.
Les 90 minutes auront été intenses, les 10 dernières de la pure souffrance, alors qu'en retentit le coup de sifflet final, ces 4 fans du PSG oublient le temps de quelques accolades, les gestes barrières. Antonin, le moins optimiste de tous avant la rencontre, savoure.
Je ne croyais pas du tout qu'on allait faire un match comme ça, et tellement le meilleur match que j'ai vu de Paris depuis longtemps.
Le meilleur match, le meilleur collectif surtout, c'est ce qui a impressionné Henri, qui y voit le succès d'un homme.
Force est de constater que le coach il a une vraie part de responsabilité, parce que les coachs d'avant soirée sur les matchs vraiment décisifs. Et là, on a été bon sur les deux matchs finalement. En tout cas, il a son plan de jeu à fonctionner. Donc Pochettino au top, quoi.
Mauricio Pochettino, celui qui permettra peut-être de rompre la malédiction autour du PSG. En tout cas, celui qui accorde aux supporters, comme Louis, leur revanche.
On est en train de se venger de notre passé et de battre toutes nos bêtes noires et toutes les équipes qui nous avaient éliminés. On va battre City au, au prochain tour si c'est eux qui se qualifient, et on finira par le Real.
Les supporters qui se confortent avec une statistique. Depuis 4 saisons, l'équipe qui a éliminé le Bayern Munich a toujours remporté la Ligue des Champions.
Et on devrait connaître dans la journée l'adversaire du PSG pour la demi-finale. Ce sera le Borussia Dortmund ou Manchester City.
C'était le journal de Morgane Klein-Refait, 5h08.
La météo avec les meubles Gautier. Créateur, designer et fabricant français de meubles pour toute la maison. À retrouver dans nos magasins et sur gautier.fr.
Toujours des gelées au réveil, Jean-Pierre Hameau.
À la faveur des belles éclaircies nocturnes, les températures seront encore bien froides au lever du jour, avec des valeurs généralement comprises entre moins 3 et 3 degrés. Localement, ça pourrait descendre jusqu'à moins 5 degrés, et en particulier dans le nord-est et le centre-est du pays. Côté ciel, votre journée sera généralement bien ensoleillée. Prévoyez un peu plus de cumulus cet après-midi dans la moitié nord, apportant de rares ondées et plutôt dans le nord-est. Sous l'influence d'une dépression méditerranéenne, le ciel sera plus nuageux des Alpes-Maritimes à la Corse, avec en prime quelques averses de pluie ou de neige à partir de 1400 mètres d'altitude. Le Mistral va baisser d'un cran pour souffler jusqu'à 50 km/h. Les températures maximales, toujours fraîches pour la saison, évolueront entre 10 et 18 degrés du nord au sud.
France Inter.
Voici le programme de la première demi-heure. D'abord les chroniques littorales avec une entreprise experte dans l'assainissement et le recyclage des eaux usées à terre, mais aussi à bord des bateaux. Je vous donnerai les unes de la presse. J'ai vu notamment dans La Croix qu'une entreprise de Montpellier accorde désormais un congé menstruel à ses salariés. C'est une première en France. Suivront les pop news et notre invité déjà debout qui tient un bar à New York. De larmes, c'est le titre d'une chanson de notre playlist. Une chanson très rock pour un musicien à la croix de nombreux styles. D'abord rappeur, le voici chanteur pop, Zedjun Pavarotti sur France Inter.
Liquide en vitesse, je le ferai comme misère. J'ai grillé d'envie qu'on m'en enlève. Y'a pas de mystère, non, je suis dans le ministère. À crever d'envie, on s'en remet. Regarde, y'a pas d'horreur, mon amour. Yeah. Ce que je veux n'est que voler l'or d'un mot. Yeah. Toute la journée, je cause pas, j'en rajoute. Yeah. Allez, ciao, voilà, prends ma bouche. Je veux pas d'autre
Pavarotti avec De larmes, un extrait de Beausseigne, le tout premier album de cet artiste inclassable. Il est 5h12, l'invité des chroniques littorales mérite des applaudissements ce matin parce qu'il vient d'obtenir une belle récompense. Bonjour José Manuel Lamarque.
Bonjour Mathilde Munoz.
Vous êtes avec un lauréat du trophée Innovation Océan.
Ce trophée, Mathilde, récompense les entreprises, les centres de recherche, les collectivités du territoire français qui développent des projets innovants de la croissance bleue et dont la portée est positive sur l'environnement maritime. Aujourd'hui, un des lauréats, Aquaécologie, avec son président Romain Salza, qui va nous faire la visite. Romain, quelle est votre spécialité ?
Aquaécologie, en fait, chez nous, on est spécialisé dans tout ce qui est traitement et réutilisation de l'eau. Donc, en fait, on fournit différentes solutions qui permettent, pour nos clients, en fait, on fait des solutions à façon, qui leur permettent de traiter tout type d'eau et on propose en fait de recycler l'eau et de la réutiliser au point d'usage afin d'économiser au maximum les ressources.
Alors Romain, quel est votre procédé ou vos procédés ?
Alors, on a développé en fait différentes solutions à la façon dont on conçoit des chaînes de traitement et via des technologies qui permettent d'un côté d'utiliser des bactéries naturelles qui vont venir dégrader tous les polluants présents dans l'eau et derrière des technologies de filtration membranaire en fait qui vont agir comme une barrière physique et qui vont empêcher tout ce qui est grosses particules, mais aussi ce qui est microscopique, comme les virus et bactéries. Tout ça va être empêché de passer en fait à travers notre membrane, et ça va permettre en fait de récolter uniquement de l'eau qui est réutilisable. Donc ces procédés, en fait, on les fait dans des cuves dans lesquelles on vient réceptionner les différentes eaux usées à traiter.
Avez-vous différents types de supports pour le traitement de l'eau, Romain ?
Alors, soit on installe ces équipements pour tout ce qui est professionnel ou autre, par exemple sur des bateaux. On a des cuves qu'on recrée à bord des navires, on peut installer. Mais on peut aussi installer ça au niveau terrestre en remplacement d'une fosse septique ou aller jusqu'à l'équivalent d'une station d'épuration, en fait, qu'on va créer sur site directement dans laquelle on va récupérer les eaux usées, les traiter, recycler ces eaux avec une qualité qui est maîtrisée et derrière pouvoir proposer directement à l'endroit où on a produit ces eaux usées de la réutiliser pour de multiples usages.
Si je comprends bien, vous êtes la nouvelle génération des stations d'épuration.
Totalement, on est la nouvelle génération de traitement et de stations d'épuration parce que jusqu'à maintenant, une station d'épuration propose au mieux un rejet conforme à la réglementation. Nous, on propose vraiment de tout éliminer et de valoriser cette eau. Des fois, on se dit c'est quand même dommage de traiter une eau pour la rejeter. Pourquoi nous rejeter une eau alors qu'on pourrait la réutiliser et du coup plusieurs fois la réutiliser et du coup diminuer le stress hydrique. Donc c'est des solutions qui tendent vers l'avenir en fait des stations d'épuration et qui tendent à se généraliser.
Et à la sortie, Romain, est-ce que c'est de l'eau potable ?
Alors en France, il y a une réglementation qui dit que la meilleure qualité de l'eau quand on est en recyclage, c'est le grade qu'on appelle qualité eau de baignade. Nous, on s'est basé sur une norme où on est entre 250 fois et 2000 fois plus pur que ce type d'eau. Mais on n'est pas encore réglementairement parlant sur le grade eau potable. On peut aller en rajoutant des solutions briques supplémentaires d'osmose vers le grade de potabilisation. On peut potabiliser l'eau si on veut. Mais pour le moment, on propose plutôt ça sur les marchés. Il y a vraiment du stress hydrique, mais pas encore sur la France à cause de la réglementation. On est encore un peu frileux sur les marchés français.
Si je comprends bien, vous êtes multimodaux.
Oui, on s'adapte quel que soit le site. À bord d'un bateau, à terre, en solution, en conteneur aussi, on peut l'adapter en conteneur mobile de manière à pallier une situation d'urgence. On a vraiment pensé pour que ce soit le plus polyvalent possible.
L'autre spécialité, Romain, de Aquaécologie, c'est le traitement de l'eau dans les ports.
Oui, on a développé une gamme qui s'appelle le Smart Port et en gros, ces solutions, on les place au niveau portuaire. On va permettre, via déjà une barge de traitement, de récupérer les eaux usées des bateaux de tout type, de toute taille, ou une station de pompage à terre. Et directement au niveau portuaire, dans les infrastructures du port, on va avoir notre solution qui du coup sera soit enterrée, soit en conteneur pour s'intégrer au niveau paysager, soit en camion mobile. Et cette solution au niveau portuaire va permettre, pareil, de prendre en charge les eaux usées générées par les bateaux et les infrastructures du port, et de traiter directement sur place et de recycler l'eau au niveau portuaire. On pourrait par exemple la réutiliser pour du lavage, pour utiliser des karchers sur une aire de carénage ou pour tout eau de process au niveau portuaire.
Merci Romain Salza. Pour tout savoir, un site internet aquacomeo.eco. À demain Mathilde Munoz.
Bonne journée José-Manuel Lamarque.
Le 5-7 sur France Inter.
Il est 5h16. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, présente aujourd'hui sa réforme de justice. C'est l'une des grosses actus du jour. On en parlait d'ailleurs dans le journal. Libération en fait sa une avec ce titre « Faites sortir les jurés ». Le texte propose en effet de généraliser les cours criminelles départementales qui fonctionnent uniquement avec des magistrats sans jury populaire, contrairement aux cours d'assises. Ces cours criminelles s'occupent des affaires punies jusqu'à 20 ans de prison. Autre événement du jour, l'arrivée en bourse à Wall Street de Coinbase, une plateforme d'échange de bitcoins. Sa capitalisation autour de 100 milliards de dollars s'annonce fracassante, c'est le dossier des Échos. Le Parisien et l'équipe reviennent sur l'événement sportif de la soirée, la qualification du PSG en demi-finale de la Ligue des Champions Énorme, titre Le Parisien, le cri du cœur dans l'équipe. Enfin, les autres journaux nationaux nous parlent de l'épidémie de Covid, version relance et sortie de crise dans l'Humanité et Le Figaro. Alors que La Croix et l'Opinion comptent les morts, la France va bientôt dépasser la barre des 100 000. La Croix nous propose une vision globale des chiffres de surmortalité. À l'échelle mondiale, c'est l'Amérique du Sud qui paye le plus lourd tribut, alors que l'Asie du Sud et de l'Est a largement été épargnée. Quant au continent africain, il demeure une inconnue, faute de données fiables. Toujours dans La Croix, on découvre qu'une entreprise de Montpellier a décidé d'accorder un congé menstruel à ses salariés. C'est la première entreprise en France à le faire, elle s'appelle La Collective. Ses salariés ont droit à un jour par mois en cas de règles douloureuses et la direction ne demande aucun justificatif. Nous préférons faire confiance, explique le gérant. Airbnb vient de signer un partenariat avec l'Association des maires ruraux de France. La plateforme veut se développer davantage à la campagne. Objectif, 15 000 logements de plus d'ici la fin de l'année. C'est une info du Parisien aujourd'hui en France. Le Parisien qui nous signale aussi que les repas à 1 euro dans les restaurants universitaires sont un succès. 160 000 repas par semaine étaient servis au mois de janvier. On en est à 780 000 par semaine pour cette mesure destinée à aider les étudiants à traverser la crise. À propos de crise, Olivier Dussopt, le ministre des Comptes publics, chiffre dans le Figaro ce qu'elle va coûter aux caisses de l'État. Quand on additionne toutes les mesures, on arrive à 424 milliards d'euros entre 2020 et 2022. Enfin, le groupe LVMH, lui, ne connaît pas la crise. Il vient de dépasser les 300 milliards d'euros de capitalisation boursière. Une première à la Bourse de Paris, selon les Échos et le Figaro. Il est 5h19, film, musique et roman graphique. C'est le trio gagnant au menu des Pop News de Charline Roux et Antoine Decaune.
Dans La femme à la fenêtre, Amy Adams est une psychologue pour enfants qui vit pourtant recluse dans son appartement new-yorkais puisqu'elle est agoraphobe. Elle passe le plus clair de son temps à regarder ce qui se passe dans l'immeuble d'en face. Et elle finit par se lier d'amitié avec Jane Russell, précisément la femme qui vit en face, incarnée par Julianne Moore. Un soir, Anna aperçoit chez les Russell quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir au point de soupçonner son voisin d'avoir fait disparaître Jane.
Detective Little, NYPD.
Where's Jane?
Mr. Russell believes that you made a mistake.
You have never met my wife.
Ma'am, you all right?
I know Jane. Jane's been in my house.
I'm Jane Russell.
I'm not crazy. I know what I saw. They're all hiding something.
I told you, you've never met my mother.
Stop watching our house.
Et personne ne croit Amy Adams puisque celle qu'elle croyait être Jane Russell, soit Julianne Moore, a disparu et celle qui se présente désormais comme Jane Russell, soit Jennifer Jason Leigh, est-elle bien là? Vous me suivez? Bon bah La femme à la fenêtre de Joe Wright, ce sera le 14 mai sur Netflix.
À peine ai-je eu le temps de maîtriser la corée de Seiso pour mes vidéos TikTok que Doja Cat propose déjà ce qui s'annonce comme un des sons de l'été. Et le tout en duo avec la chanteuse néo-soul SZA, une collab intitulée Kiss Me More. Et un duo qui figurera sur Planet Earth, l'album de Doja Cat, attendu d'ici l'été.
Et un conseil lecture pour terminer, le formidable roman graphique signé Gilles Rochier et Deloupi est titré Impact. Deux histoires, plusieurs temporalités. Danny, la quarantaine, est un marginal qui cache un sérieux trauma. Il est aux prises avec la justice et il se voit obligé d'aller consulter une psychanalyste. Et de l'autre côté, Jean, un ouvrier à la retraite, il vit dans un EHPAD, il se sait condamné par la maladie et lui aussi cache un événement traumatisant. C'est à la fois un polar et un roman social. C'est remarquablement écrit par Rochier et illustré par Deloupi. C'est édité chez Casterman et c'est plus que chaudement recommandé.
Et rendez-vous à 16h pour plus de pop culture avec Antoine Decaune et Charline Roux. Il est 5h22, la première invitée du 5-7 tient un bar à vin à New York, un établissement qui a une particularité. Il ne propose que des vins produits par des vigneronnes. C'est notre coup de fil, déjà debout dans 3 minutes. Allez, debout tout le monde, c'est Django Django et Charlotte Gainsbourg qui jouent les réveils matin. Voici Waking Up.
Striking curtains blown.
Glowing in the Dark, c'est le nouvel album de Django Django sur lequel figure cette chanson Waking Up en duo avec Charlotte Gainsbourg.
France Inter, Mathilde Munoz.
Il est 5h25, 23h25 à New York. La journée se termine pour notre invité. Bonjour Alexandra Charpentier.
Bonjour.
Vous avez un bar à vin à New York, le Winemaker, plus précisément à Brooklyn. Les derniers clients viennent de partir, c'est ça ?
Ah oui, ils sont en train de finir leur verre et voilà, on remballe.
Donc 23h, c'est la limite, c'est ça ? Vous fermez à 23h ?
Tout à fait, toutes les checks doivent être fermées à 23h et puis on laisse toujours un petit peu aux gens le temps de partir. Mais
c'est la règle en temps de Covid, sinon en temps normal, vous pouvez ouvrir plus tard.
Ah oui, bien sûr, oui, là c'est le couvre-feu.
Et vous pouvez accueillir des clients à l'intérieur, vous ? Vous avez le droit ?
Oui, tout à fait, 50% de notre capacité actuellement.
Et donc, ça fait combien de personnes à peu près ?
Alors, pour nous, on a une vingtaine de personnes qui peuvent rentrer à l'intérieur. On fait juste attention qu'il y a bien 6 pieds entre chaque personne.
Alors, ce bar, vous l'avez ouvert il y a un an, au tout début de l'épidémie. Racontez-moi comment vous avez fait. Tout n'était pas fermé à New York il y a un an ?
Si, exactement. On a ouvert pendant le confinement new-yorkais. Donc, tout le monde était dubitatif.
Il y a de quoi ?
Mais on a créé... Alors, New York nous a permis de vendre en ligne et directement aux clients à emporter. Donc, on a fait un e-shop, tout simplement.
Et ça a bien marché, ouais ?
Ça a très bien marché grâce à plusieurs amis du réseau She4She et d'Elite Circle. Et après, on pouvait ouvrir les fenêtres et on vendait nos verres comme ça à emporter aux clients de passage. Et ça a permis de commencer un petit réseau de clients du quartier.
Et c'est comme ça qu'est né votre bar à vin qui s'appelle le Winemaker. Et her, c'est apostrophe H-E-R, parce que le concept, c'est que vous ne proposez que des vins produits par des femmes, des vigneronnes.
Des vigneronnes, tout à fait. De temps en temps, le domaine appartient à des hommes ou appartient à des familles. Mais la femme, la vigneronne, c'est celle qui fera le vin.
Pourquoi avez-vous fait ce choix ?
Alors, ce n'était pas du tout prévu à la base, mais c'est quand j'ai créé ma liste de vins que j'ai rencontré les femmes vigneronnes, une association sur Avignon, d'où je viens, et le réseau des cercles de femmes de vin qui m'a aidée, mais plus qu'il ne faut. Et c'est une telle générosité que je me suis dit, je vais travailler qu'avec des femmes. Voilà.
Et vous n'avez pas de mal à trouver des vins? Ça limite pas le choix?
Ça limite énormément le choix. Nous ne sommes pas encore en parité, mais on y avance petit à petit. Donc, il y a à peu près 30%, il me semble, des domaines qui appartiennent à des vignerons, enfin, qui sont faits par des vignerons. Donc, on y vient. Et si, ça limite énormément, surtout qu'on aimerait se lancer dans les vins naturels de notre côté. Mais trouver un vin naturel fait par une vigneronne, c'est encore un autre... d'autres étapes.
Et par contre, vous ne vous limitez pas sur la provenance. Vos vins viennent de partout.
Alors oui, moi j'ai rencontré énormément de vignerons en France, donc effectivement il y a énormément de vins de France. Mais j'ai trouvé ça beaucoup plus rigolo d'avoir les vins de New York déjà. Moi je trouve ça hyper intéressant. Et puis après d'Afrique du Sud, d'Espagne, d'Argentine, oui, on essaie de trouver un peu partout, c'est ça, de Luxembourg, c'est ça qui est intéressant dans le vin.
Vous dites que ce n'était pas le concept que vous aviez prévu à la base, c'était quoi?
Alors, au tout départ, c'est un bar à pétanque, donc on a notre petite piste de pétanque à l'intérieur.
C'est vrai?
Qui est restée, oui. Oui, on a voulu avoir cette petite French touch sur Brooklyn. Mais c'est vrai que la communication autour du bar à pétanque ne fonctionnait pas du tout à New York.
C'est pas connu du tout aux États-Unis, la pétanque?
Non, et puis je parlais tellement plus des vignerons que moi, ça me passionnait de parler du travail des femmes derrière ces vins. La piste de pétanque, je la mettais un petit peu en deuxième info.
Alors, c'est un bar à vin, mais qui fait aussi quelques plats. Et là, c'est votre mari qui est en cuisine.
Alors, mon mari et moi aussi, de temps en temps.
Ah, vous aussi?
Je mets la main à la pâte. Oui, on se partage la tâche. Et lui, essentiellement, pendant le service, c'est lui qui va envoyer les plats et moi, je vais faire le service.
Et c'est quel genre de plat? C'est de la cuisine française?
C'est très, très français, oui. On est sur la quiche lorraine, l'oignon
de
soupe. Et, la soupe à l'oignon et le croque-monsieur. Voilà, c'est des choses qu'on connaît, qu'on a fait énormément. Déjà chez nous en France, voilà, qu'on reproduit ici.
Le Winemaker, c'est le nom de votre bar à vin que vous avez ouvert à New York. Merci beaucoup Alexandra Charpentier, vous étiez notre invitée déjà debout. Dans 5 minutes, on découvre le nouvel album de João Selva. C'est un petit bijou de funk et de disco brésilien. France Inter, 5h30. Un nouveau point sur l'actu avec Morgane Klein-Refait. Audience filmée et généralisation des cours criminelles. Voilà deux points clés du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire.
Présenté ce matin en Conseil des ministres et contesté par les magistrats comme par de nombreux avocats. Certains ne comprennent pas un tel revirement d'Éric Dupond-Moretti depuis qu'il est garde des Sceaux. Lui qui, comme avocat, fustigeait les cours criminelles notamment, qui jugent des crimes punis de 15 ou 20 ans de prison sans jury populaire. Pour Franck Berton, avocat au barreau de Lille, qui a bien connu Éric Dupond-Moretti, c'est un retournement de veste dans les règles.
Ah, je suis abasourdi. Comment on peut être un jour, il y a quelques mois, le défenseur bec et ongle des cours d'assises, et plusieurs mois après, en être le fossoyeur? C'est hallucinant. La justice rendue par le peuple et au nom du peuple, c'est vraiment le combat des avocats. La justice rendue dans l'entre-soi, c'est pas souhaitable. Tous les crimes dont les peines encourues sont inférieures à 20 ans seraient jugés par des cours criminelles. Ça représente au moins 2/3 des faits criminels. Tous les faits de viol, par exemple, comment est-ce possible d'oublier à ce point-là l'exercice de la profession de l'avocat? Mais moi, j'avais beaucoup d'espoir dans sa nomination de la part d'un professionnel qui connaissait bien le terrain et qui aujourd'hui semble piétiner les principes essentiels de notre justice moderne.
Celui que vous appeliez et que beaucoup de monde appelait acquittateur, vous le rebaptisez aujourd'hui?
Oui, je le rebaptise destructeur, d'autres liquidateur. J'aurais envie de lui dire, Éric, réveille-toi.
Franck Berton, joint par Mathilde Lemaire. Le projet de loi doit être examiné en procédure accélérée au Parlement. Le Sénat, invité à débattre aujourd'hui du maintien des élections régionales en juin, décalées d'une semaine seulement. Hier soir, l'Assemblée nationale a massivement soutenu le calendrier retenu par l'exécutif, avec un scrutin qui doit donc se tenir les 20 et 27 juin.
Le vaccin anti-Covid de Johnson & Johnson arrivera avec du retard en Europe.
Le laboratoire américain américain reporte son déploiement suite à la recommandation d'une pause par les autorités sanitaires aux États-Unis. Elles veulent étudier de possibles liens avec de graves caillots sanguins chez une poignée de personnes. C'est un coup dur pour la vaccination en France notamment, alors que 200 000 doses devaient être livrées dans les prochains jours. Au Brésil, le Sénat lance une enquête sur la gestion de la crise sanitaire par le président Jair Bolsonaro. Le pays compte plus de 350 000 morts avec un variant extrêmement virulent. Pour limiter le risque de sa propagation dans l'Hexagone, la France suspend les vols en provenance ou à destination de Rio dès aujourd'hui. Situation préoccupante aussi en Guadeloupe. Le nombre de cas la semaine dernière a presque augmenté de moitié, indique ce matin l'Agence régionale de santé.
C'est l'un des rares effets positifs de l'épidémie de coronavirus et des mesures de confinement. La pollution de l'air a baissé au printemps de l'an dernier, selon Santé publique France.
Mais à Marseille, ça a pourtant provoqué l'inverse. 13 paquebots de croisière coincés à quai depuis un an continuent de faire tourner les moteurs pour les équipages à bord. Selon une étude d'Atmosud qui surveille la qualité de l'air, ils ont donc pollué autant au printemps dernier que tout le trafic routier de la ville, Olivier Martoc.
Pour ne pas se faire repérer, les paquebots feraient tourner leurs moteurs la nuit. Elisabeth Pellissier, la présidente du comité d'intérêt de quartier de Saint-André, au nord de la ville, fait partie de ces riverains qui ont donné l'alerte. Elle a installé un capteur qui analyse la pollution de l'air.
Bizarrement, ça fluctue beaucoup la nuit. Il y a peut-être un peu le chauffage. Il n'y a pas les véhicules puisqu'on est tous confinés. Donc, il ne reste plus que nos chers bateaux de croisière. Les pics, ils montent 120 microgrammes. Je veux dire, c'est effrayant.
Ce ressenti des riverains est confirmé par Dominique Robin, le directeur d'Atmosud, en charge de l'analyse de la qualité de l'air à Marseille.
L'ensemble des navires qui sont dans le port continuent de produire l'électricité en faisant tourner des moteurs. La première pollution à Marseille, ça reste la voiture. Les navires, c'est à peu près le même niveau de rejet. Mais leur impact est lié finalement à ces directions de vent qui sont plus ou moins orientées sur les populations.
Ces données quand même interpellent, car même si leur nombre est record, il n'y a que 13 paquebots à quai à Marseille depuis un an. Explication de Victor Hugo Espinoza, le président de l'association L'Air et Moi.
Il y a des gens qui vont donner des chiffres pour rapport à la moyenne. Mais si vous prenez les voitures Euro 6, on peut dire qu'un bateau comme ça, ça vaut l'équivalent de 400 000 voitures.
Une nouvelle fois mise en cause, les croisiéristes annoncent la mise en service de paquebots au gaz dès 2023 sur la desserte phocéenne. Marseille. Olivier Martoc, France Inter.
La petite Mia, toujours recherchée ce matin, enlevée hier par trois hommes dans les Vosges. La fillette de 8 ans portait un gilet gris, une doudoune blanche et un pantalon noir lors de son enlèvement. Aux États-Unis, Joe Biden prononcera son premier discours de politique générale devant le Congrès le 28 avril, peu avant la date symbolique de ses 100 jours de mandat.
Le PSG malmené, mais le PSG qualifié.
Les footballeurs parisiens iront en demi-finale de Ligue des Champions pour la troisième fois de leur histoire, malgré leur défaite 1-0 contre le Bayern Munich hier soir en quart de finale retour. Ils avaient assuré leurs arrières grâce à la victoire à l'aller.
C'était le journal de Morgane Klein-Refait. Le temps de ce mercredi, Météo France prévoit beaucoup de soleil. Quelques nuages le masqueront de temps en temps dans le nord et le nord-est, avec des ondées possibles dans le nord-est, un risque d'averse également en Corse. Mais à part cela, ce sera vraiment une belle journée, belle et fraîche. Ce matin, il fait entre moins 3 et 3 degrés. Il gèle dans le nord-est et le centre-est. Et pour cet après-midi, on restera en dessous des normales de saison, de 10 à 18 degrés du nord au sud, 10 à Lille et Nancy, 18 à Toulouse et Montpellier. À suivre dans les bulles de BD, deux mangas qui nous racontent des histoires d'amour entre filles. Laetitia Gaillet nous rejoint à 5h53. Tout de suite, c'est de la musique.
France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
C'est l'heure de notre voyage musical. Bonjour Djoubaka.
Bonjour Mathilde.
Vous nous présentez le nouvel album du Brésilien João Selvin, un disque qui s'intitule Navegar.
Exactement. Et si vous avez l'oreille attentive, vous l'avez Mathilde en ce moment, vous le sentez qu'il y a une montée en puissance de là où devrais-je dire, hein, des musiques brésiliennes. Et ben c'est peut-être parce qu'elles ont pour effet de nous rassurer et de nous donner l'impression d'une forme de douceur tout en ayant une sorte de magnétisme sur nos pieds, nos bras, et qui nous donne une certaine envie de bouger. En tout cas, il y a du monde, vraiment du monde sur la ligne de départ, et parmi eux, João Selvin, dont le deuxième album, vous l'avez dit, Navegar, vient de sortir, et en voici un extrait. Lusophone toujours, lusophone un jour, Tudo vai dar pé.
Essa agonia. Ninguém é melhor do que ninguém. Favor, não confiscar minha alegria.
da sua raiva estou bem além. Oh, nem que te levem muito a sério, oh, nem que censurem o carnaval, oh, nem que fechem os ministérios. No final o bem vence o mal.
Vous savez, le Brésil, c'est un des pays où le métissage, le mélange des cultures est aussi une évidence, ben, que l'on retrouve dans de nombreuses formes musicales. Le son, les grammaires mélodiques, qu'elles soient d'Afrique, des Caraïbes, des USA et des autres pays d'Amérique latine, ben, trouvent toujours là-bas un terreau où les nouvelles pousses sont les bienvenues. Et dans toutes les musiques populaires, partout sur le globe, et vous savez, il y a une histoire de cycle, de j'y reviens. C'est-à-dire que les mêmes causes, même si elles apparaissent dans des époques différentes, créent les mêmes effets. On l'entend aujourd'hui dans le rock anglais qui replonge dans l'époque de crise où était né le punk, on l'entend dans la soul, le R&B américain, qui rejoint aujourd'hui l'esprit des luttes pour les droits civiques, celles des années 60. Alors, au Brésil, eh ben, on redécouvre, situation politique oblige, le tropicalisme. C'est-à-dire que c'est ce mouvement musical qui est né pendant la dictature militaire et qui s'est installé sur l'idée d'une musique vraiment universelle, sans frontières. Si on revient un peu en arrière, en 67, on avait quand même Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Gal Costa, dont vous a parlé récemment, j'imagine,
qui mettent
le feu à la baraque. Et puis, c'est l'arrivée du psychédélisme américain, qu'il soit acoustique ou électrique, dans le monde de la musique brésilienne. C'est un patchwork qui résonne encore, vraiment, pour João Selva, parce que lui, c'est un enfant de ce dynamisme. Imaginez quand même qu'il a grandi dans une communauté où son père pasteur accueillait, comme ça, des anciens tolards et des artistes convertis au catholicisme. Et puis, dans cette communauté, ben, il y a une figure de proue, une historique de la bossa nova, c'est la grande Wanda Sá. Et ce père de pasteur en question, c'est aussi un collectionneur de disques de haut niveau, et ben ce qui permet à João Selva de se faire une éducation elle aussi au niveau de monter sur un podium. Donc 18 ans, il a la bougeotte, il a l'âge de partir, de voir ailleurs, et il devient ce qu'on appelle un musicien itinérant. Alors comme beaucoup d'artistes de sa génération, en fait, il va coquiner son univers à celle des musiques électroniques avant de débarquer en France et de poser ses valoches à Lyon. Alors là, autre particularité, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais cette ville est un autre nid d'accueil pour les musiques d'ailleurs, et des musiques d'ailleurs qu'il faut bousculer. Alors, il rencontre une scène musicale vraiment exigeante, hétéroclite, et un producteur qui s'appelle Bruno Patchwork. Alors ça, c'est bien nommé comme nom. Hein. Alors, il y a 2 ans, ils partent tous les deux au Brésil, enregistrent cet album, Navgar, et comme pour le tropicalisme en son temps, ils bâtissent des ponts entre les musiques. C'est-à-dire qu'il y a un brin de jazz, un soupçon de funk, de disco, c'est vrai, et c'est un nouveau cocktail qu'il nous fera siroter tranquillement. Et autant se le dire, tout de suite, on va pas se faire prier vu les circonstances. Alors, adepte ou futur adepte du foro, du compas, et ben l'Atlantique noire est vivante et se réjouit de son histoire. Et on écoute Navgar.
Thank you. nada. O muito mundo é pouco, o mundo é nada. Quero conhecer o mundo, qualquer dia eu chego lá. Vou levando meu barquinho, que a maré vai carregar.
Navegar, c'est le titre de cette chanson et du nouvel album de João Selva. Merci Djoubaka de mettre comme ça du soleil dans le 5-7.
Ah, vous avez trouvé, je suis content.
Ah bah oui, ça c'est joyeux, c'est agréable, j'aime beaucoup. Ça y est, on l'a en tête.
On l'a dans la tête pour la journée.
Exactement, mais c'est pas désagréable, donc c'est parfait.
Oui.
Merci, bonne journée.
Et bonne journée à vous.
France Inter. Le 5-7.
Il est 5h44, voici la revue de presse avec Jean-Philippe Ballas, bonjour.
Bonjour à tous.
Ce matin, vous nous parlez de voitures.
De voitures et de piqûres. Ça rime et ça tombe bien puisque voici en Occitanie le premier Vaxidrive. Ou si vous préférez, comment recevoir votre dose de vaccin tout en restant au volant. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui vous raconte cette première tricolore hier sur le parking d'une clinique de Saint-Jean-de-Véda dans l'Hérault. Comment ça marche? Eh bien les conductrices et conducteurs se présentent toutes les 20 minutes. D'abord un entretien avec le médecin, puis le bras à la portière. Parmi les patients, il y a Jean-Michel, 68 ans, l'autoradio allumée, parce que se faire piquer en écoutant du Jefferson Airplane, c'est cool, dit-il. À terme, le rythme doit être de 500 piqûres par jour, nous dit le Parisien. Évidemment, les patients restent un peu après la piqûre, histoire de guetter une éventuelle réaction. Et si ça ne va pas, on klaxonne. Un autre parking ce matin dans vos journaux, sauf que celui-ci est désert. Libération vous emmène chez Whirlpool, ou ce qu'il en reste, l'usine d'Amiens, avec un homme seul devant un portique rouillé, comme si tu te faisais virer de chez toi. Lui, c'est Christophe Beaugrand, 43 ans, le dernier ancien de l'usine. Il en avait 18 quand il est entré chez Whirlpool en 1996, impressionné à l'époque par la cadence des 1400 salariés qui travaillent à la chaîne. Le boulot n'était pas simple, mais on n'était pas malheureux, dit-il. On gagnait un 13e mois, on avait des RTT et même des chèques cadeaux. Ça n'existe plus beaucoup, ça, chez les ouvriers. Portrait remarquable dans Libération et symbole de cette désindustrialisation. Christophe va perdre son travail, lui qui pensait faire toute sa carrière chez Whirlpool, comme dans une famille, là où les pères et les mères font entrer les fils et les filles, où des collègues se marient, font des enfants, il y a les copains, les anniversaires, et puis aussi un troisième plan social en 3 ans. Christophe raconte sa lutte de délégué syndical et l'effondrement comme coupé en deux quand il prend conscience que c'est fini. « Qu'est-ce que tu fous, papa ?» lui demande sa gamine de 21 ans. « Je me bats, dit-il, parce qu'il n'y a pas de petites gens. »
Également dans la presse, une histoire de torpilles et de sous-marins russes.
Oui, histoire inquiétante. Dans le Figaro, je découvre le concept de « heavy metal diplomatie », trouvaille d'un chercheur britannique, pour décrire les bruits de bottes et les démonstrations de force de la Russie qui rappellent son statut de puissance nucléaire. Exemple donc avec ce nouveau sous-marin, le Belgorod, porteur d'une torpille dévastatrice baptisée « Poséidon », 100 fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima. De quoi déclencher l'apocalypse, des raz-de-marée, des tsunamis en explosant près des côtes, sans parler des retombées radioactives. Cette arme serait en phase de test dans le Pacifique, mais difficile de démêler le vrai de l'intox. Intimidation distillée avec soin. Moscou veut faire de Poséidon un atout dans les négociations sur le contrôle des armements. La vérité est trafiquée. On en parle aussi dans La Croix ce matin, avec les faux sourires des victimes des Khmers Rouges. Récit troublant où l'on apprend qu'un artiste irlandais a colorisé et modifié, sans le dire, les clichés de prisonniers des années 70 dans un centre de torture. Au départ, il parlait de sourires dus en grande partie à la nervosité. Sauf que les familles des victimes, intriguées, ont fouillé les archives, retrouvé des photos originales. Les prisonniers ne souriaient pas, les images ont été modifiées. Pourquoi faire ? L'artiste répond sèchement que le projet a été monté à la demande de l'État cambodgien et de plusieurs proches des défunts. Démenti du gouvernement et colère des associations, je défie quiconque se retrouvant dans l'antre du diable d'aller vers la mort en souriant, dit une responsable. Il s'approprie tout ce qui reste de ces hommes, de ces femmes, leur image, leur mémoire. Mémoire collective, une esthétisation de l'horreur, dénonce une historienne. Plus grave encore, une perte de sens du réel.
Jean-Philippe Ballas, c'était la revue de presse. 5h48, Guillaume Meurice nous offre un cours d'histoire.
On va parler de Napoléon aujourd'hui, le grand homme qui a perdu à Waterloo, voilà, chez les Belges, mais pas contre les Belges. Hein.
Non,
ne perd pas contre les Belges, attention, grâce au général Umtiti notamment. Alors, pour parler, pardon pour les mauvais souvenirs,
désolé.
Pour parler Napoléon, alors j'avais d'abord pensé à Pierre-Jean Chalençon, puisque c'est un grand passionné, Pierre-Jean.
Oui.
Enfin, il a exactement deux passions, l'effet des opiacés sur son système nerveux et Napoléon, mais il n'était pas dispo là, alors petit problème, il a eu, vous l'avez vu dans la presse, de garde à vue, voilà, pour recel de coquillettes à 400 boules au délai. Un cambre, ils sortent feu. Mais bon, je me suis dit, bon, le mieux, c'est quand même d'en parler directement au peuple de France, parce que Napoléon, c'est ça, il appartient au peuple, on a tous un avis. Et je veux dire, même ici, on a un avis. Alex me disait tout à l'heure, alors Napoléon, c'est un Corse, tous les Corses sont des feignants, des terroristes, des moins que rien. Bon.
Ah oui, c'est vrai, il a dit ça.
Il disait ça tout à l'heure et tout. Alors bon, c'est dommage, dommage, Alex, vos propos, voilà, c'est dommage, parce qu'en plus, vous veniez juste de changer les pneus de votre trottinette électrique. Enfin, voilà, c'est vraiment l'excellent bête. Mais bon, heureusement, beaucoup de Français ont un avis plus mesuré sur Napoléon. Enfin, à peu près. Je suis allé le voir ce matin. Faut-il donc commémorer le bicentenaire de sa mort ? C'est la question du jour.
Alors, du fait que vous me parlez de ça, je trouve qu'il y a une question qui est d'actualité, qui est bien plus importante. Ça serait de savoir si, effectivement, on se doit, dans un pays laïque, hein, je dis bien, de permettre la création d'écoles musulmanes.
Alors là, ça n'a rien à voir avec le sujet du jour.
Mais bien sûr, mais...
Rien à voir avec Napoléon, là.
Mais oui, mais il faudrait laisser Napoléon reposer encore un petit peu et s'occuper de cette histoire.
Mais je crois qu'il n'y a pas un sujet que j'ai abordé dans l'émission, on n'a pas voulu me parler d'islam. Voilà.
C'est dingue.
La culture des carottes.
Parce que Napoléon, il a, pour le coup, c'est pas beaucoup investi.
Bah, il a été en Égypte, mais bon, voilà, ce n'est pas mathématique. Voilà, donc là, on est quand même sur une signusation des esprits, alors que je suis un petit peu persévérant quand même, j'ai continué. Est-ce qu'il faut commémorer Napoléon ?
Pourquoi pas Et Jeanne d'Arc, pourquoi on le fait pas ?
Ah bah, on le fait.
Ah oui, c'est ça, c'est le Front National. Heureusement qu'il est là.
Ouais, heureusement qu'il est là, le Front National, ne serait-ce que pour faire passer Marlène Schiappa pour un prix Nobel. On a toujours besoin d'un épouvantail, c'est comme ça. Moi, j'utilise la même technique quand on me dit « Lyon, la musique que tu joues, ça fait saigner des oreilles ?» Je dis « Oui, mais vous avez déjà entendu Djoubaka jouer du navet à piston ?» Voilà, et ça permet toujours de relativiser. Alors, je propose de bien rester focus sur Napoléon, parce que je sens que là, quand même, on s'égare un petit peu. Allons voir une autre dame. Est-ce qu'il faut donc commémorer Napoléon ?
J'en ai rien à foutre.
Rien à foutre. Non, vous en foutez.
Carrément, rien à foutre. Là, parce que je cherche un mec là, qui m'avait promis d'être là et qui n'est pas là, alors ça m'énerve. Je vais être avec sa camionnette et puis je le vois.
Et ça, je trouve que c'est une belle leçon d'humilité, vous voyez. Vous pouvez avoir mené toutes les batailles que vous voulez. Le pont d'Arcole, vous avez mis en place le code civil, exiler, revenir, vous faire sacré empereur dans 200 ans. Vous ne ferez pas le poids face à un mec en retard avec sa camionnette. Ça, c'est important. Gardez bien ça en tête, les futurs dictateurs. La majorité des gens s'en foutront. Alors même si, évidemment, quelques-uns resteront fascinés, y compris par votre côté sombre.
Bah, le côté sombre, il a dominé l'Europe pendant jusqu'à 1810, à peu près. À mon sens, il a été génial.
Mais est-ce qu'il n'a pas été génial en massacrant un tour de bras ?
Non, pas du tout. Pas du tout.
Non, alors, j'ai vérifié. Alors bon, effectivement, il y a beaucoup de morts dans les batailles, mais rien n'indique la cause exacte hein, de la mort. Finalement, c'est vrai qu'on regarde bien, il n'y avait pas de distanciation sociale, les gens n'avaient pas de masque. Donc voilà, les chercheurs sont sceptiques. Voilà, c'est comme pour tout. Hein. Moi, je vais vous dire, j'attends l'avis de Francis Lalanne pour me prononcer. Rien n'est sûr. C'est comme l'esclavage. On dit que Napoléon a rétabli l'esclavage, mais bon.
Il y en a toujours eu. Hein. Et l'esclavage, c'est beaucoup les gens eux-mêmes dans les pays qui ont fait de l'esclavage. Hein.
Là, c'est Napoléon qui l'avait rétabli.
Oui. Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Vous croyez qu'on est mieux, tellement mieux aujourd'hui ?
Je ne me prononcerai pas. Je laisse vraiment chacun faire son avis. Ce qui est bien, je trouve, c'est toujours de relativiser, de voir aussi le bon côté des choses, même le bon côté, je dirais, de l'esclavage. Hein.
Ils avaient à manger quand même.
On les soignait.
On les soignait quand même. Ouais. Oui. Au moins, on ne traînait pas avec des maladies.
Moi, je suis Napoléon.
Moi aussi, ne serait-ce que pour l'aspect médical. Ah, c'est vrai, l'aide qu'il apportait aux esclaves au niveau de la santé, bah, c'était formidable. C'est quasiment lui qui a inventé la CMU, hein. Et ça, on ne le dit pas assez. D'ailleurs, à la fin de sa vie, il a même été confiné. Vous voyez, le mec était quand même un petit peu visionnaire, hein, et c'est même en tant que visionnaire qu'il a rétabli donc l'esclavage.
Oui, bah oui. Bah, alors, à l'époque, c'était du Grand Courtois, c'était celui qui ne faisait pas qui avait tort. Alors, sinon, il n'y aurait jamais eu la Martinique, ni la Guadeloupe et la Martinique.
Mais alors, est-ce que c'est pas gênant aujourd'hui de commémorer quelqu'un qui a rétabli l'esclavage?
Oui, mais bon, faut pas oublier d'où venait sa femme.
Donc il n'était pas raciste?
Bah non, la preuve.
Ah bah, et ouais, Joséphine de Beauharnais venait de la Martinique. Alors c'était une famille de béquets, voilà, de blancs, hein, descendants de colons. Mais bon, de la Martinique quand même, hein, on va pas chipoter. Et puis, bon bah le mieux, c'est quand même de laisser croire aux gens ce qu'ils veulent. Comme dirait Napoléon, on gouverne mieux les hommes par leurs vices que par leurs vertus.
Le professeur Meurice, il sera de retour cet après-midi dans Par Jupiclas.
France Inter, le 5-7.
Ce matin dans les bulles de BD, des mangas et des histoires d'amour. Bonjour Laetitia Gaillet.
Bonjour Mathilde.
On commence par Alter Ego d'Anna Cristina Sanchez.
La meilleure amie de Noël est Elena, une fille jolie, intelligente, chouette, mais...
Voici Hiro, mon copain.
Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Hiro, je te hais de m'avoir piqué Elena.
Mais Elena a un copain et une autre amie que Noël ne connaît pas encore.
June déménage. Elle sera là d'ici 2 semaines. C'est génial.
Quoi? Je vais devoir te partager avec elle en plus de Hiro?
Comment dire à sa meilleure amie qu'on l'aime un peu plus qu'une amie? Lourd secret pour la jeune étudiante qui va être prise à son propre jeu. Sa rencontre avec June va tout bouleverser. La rencontre amoureuse se niche parfois là où on attend le moins.
Alter Ego d'Anna Cristina Sanchez, c'est chez Glénat. Le deuxième manga nous plonge dans les mêmes amours, mais dans une autre époque. Goodbye My Rose Garden de Dr Pepperco.
Autre époque, donc, autre ambiance. Anna Cristina Sanchez centrait son dessin sur les personnages et les émotions. Dr Pepperco nous plonge avec minutie dans le Londres des calèches, des costumes, des chapeaux, des jardins et des librairies. Anako est une jeune japonaise. Si elle est venue en Angleterre, c'est par amour d'un auteur.
Victor Frank, je voudrais lui remettre le roman que j'ai écrit.
Jeune fille, ne me force pas à devenir grossier. Résigne-toi, nous ne devons révéler son identité sous aucun prétexte.
Observant ses larmes à la sortie de chez l'éditeur, Alice, une jeune aristocrate, propose à Anako d'entrer à son service. Alice, jeune et jolie noble, fiancée à Edouard, mais dont les yeux expriment une profonde tristesse.
Il paraît qu'elle aime les femmes.
Alice sait tout des rumeurs qui courent sur elle. Un bon mariage avec Edouard effacerait tout. Au lieu de cela, elle préfère passer un pacte avec Anako.
Si tu veux rencontrer Victor Frank, tue-moi.
Mais dans cette comédie romantique, Anako, la belle japonaise, va comme June pour Noël dans Alter Ego rebattre les cartes. L'amour ou la mort, en dépit des conventions, Alice et Anako détiennent les clés de leur destinée.
Goodbye My Rose Garden de Dr Pepperco, c'est chez Komiku. Laetitia, ce type de manga dans la littérature japonaise a un nom, le Sojo Yuri.
Pour romance entre filles. Dans le manga, en fait, vous avez plusieurs catégories. Le shonen pour les plus jeunes, avec un héros où les notions d'amitié, d'effort sont valorisées avec un peu de baston. C'est One Piece, Naruto pour les plus connus. Le seinen, le manga un peu plus adulte. Et le sojo, le manga dit entre guillemets pour les jeunes filles, où l'on parle sentiments. Deux titres phares, Fruit Basket et Nana, parus en France dans les années 2000, ont fait les beaux jours du sojo. Et pour bien comprendre de quoi on parle, il suffit d'écouter Nana.
En y repensant, ma vie au lycée a commencé et s'est achevée par une histoire d'amour. Dans cette école pour filles, je ne risquais pas de faire une rencontre et ça me désespérait. Jusqu'au jour où j'ai remarqué Monsieur Okamoto, le prof de dessin. Et là, j'ai eu le coup de foudre.
Nana et Fruit Basket se sont vendus à des millions d'exemplaires. Mais depuis les années 2010, le sojo décline, plus de séries phares. Certains diront parce que trop mièvre, trop cucu. Avec Goodbye My Rose Garden et Alter Ego, on renouvelle un genre. À travers une histoire d'amour, ces sojo Yuri interrogent l'homosexualité au féminin. Dans la société aristocratique de Londres, au 19e siècle, version Goodbye My Rose Garden, on n'est pas dans les salons victoriens où les femmes pouvaient se travestir. Ici, on se demande ce que veut dire aimer une femme dans une société faite de conventions où l'homme est le patron et le mariage le modèle à suivre. Version alter ego, on ne s'embarrasse pas des contraintes, l'amour naît partout où il doit naître. Et si c'est deux femmes, on s'en fiche. Pas d'homophobie, pas de questions existentielles. Alors c'est sans doute lié au fait que l'auteur est espagnol, de cette génération nourrie au manga qui aujourd'hui trouve par ce biais et avec tous les codes japonais une façon de s'exprimer moins conventionnelle que la BD occidentale. La rencontre de June et Noël est une rencontre comme les autres, les seules contraintes pour les protagonistes sont leurs histoires personnelles, leurs relations au monde, et c'est ce qui rend ces mangas particulièrement attachants.
Goodbye My Rose Garden, c'est chez Komiku, et Alter Ego, c'est chez Glénat, et toutes les références sont à retrouver sur franceinter.fr à la page des bulles de BD. Merci Laetitia Gaillet.
Actuellement, des formes plus contagieuses du coronavirus circulent. Pour ne pas nous contaminer les uns les autres, il est essentiel de nous isoler dès que c'est nécessaire. Au moindre doute, dès les premiers symptômes, je m'isole et je fais un test. Si mon test est positif, je reste isolé 10 jours et j'alerte mes contacts. Si j'ai été en contact avec une personne positive, je me fais tester et je m'isole immédiatement pendant 7 jours, même si mon test est négatif. Vous avez besoin d'aide pendant l'isolement? Appelez le 0800 130 000. Vous pourrez recevoir un accompagnement matériel, médical ou psychologique. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Le 16 avril 2020, disparaissait Christophe. Une voix, un génie un peu dandy, une galaxie.
Vous voyez, c'est l'infini. En fait, l'infini, c'est ce qui est beau, là. C'est l'infini qui est beau.
Le 16 avril 2021 sur France Inter, les chansons de Christophe, des invités, des archives, tout au long de la journée.
La radio, c'est magique.
Et un côté club spécial de 22h à minuit.
Pour le dernier DP Villa, quoi.
Ce vendredi sur France Inter, passez la journée avec Christophe.
5h58.
La météo avec les meubles Gautier. Dormir, manger, se détendre, ranger. Trouvez le meuble Gautier qui répond à vos envies dans nos magasins et sur gautier.fr.
Il ne fait pas chaud ce matin, Jean-Pierre Hameau.
Après une nuit bien étoilée, les températures vont se refroidir nettement avant le lever du jour. Les gelées seront fréquentes, parfois fortes, et en particulier entre le nord-est et le centre-est, où l'on attend des valeurs proches de moins 5 degrés par endroit. Côté ciel, votre matinée sera bien ensoleillée. Cet après-midi, l'ensoleillement restera souvent généreux. Il sera contrarié dans le nord et le nord-est par des nuages bourgeonnants, lâchant de rares ondées plutôt dans le nord-est. À noter une nébulosité plus importante vers les Alpes-Maritimes et la Corse, apportant quelques averses de pluie ou de neige à partir de 1400 mètres d'altitude. Le Mistral va baisser d'un cran pour souffler jusqu'à 50 km par heure. Les températures maximales se maintiennent en dessous des moyennes de saison, en particulier sur une grande moitié nord du pays. N'attendez pas plus de 10 degrés à Lille et Nancy, 11 degrés à Abbeville comme à Reims et Rouen, à peine 12 à Paris comme à Bourges et Dijon, comptez 14 à Lyon, 17 à Bordeaux et Marseille. La maximale de 18 degrés sera observée à Toulouse et Montpellier.
Nous sommes à 100 jours des Jeux Olympiques de Tokyo. L'organisation ne cesse d'être chamboulée depuis un an par l'épidémie de Covid. Pour les athlètes aussi, c'est compliqué. On verra comment se prépare Stéphane Houdet et Manon Audinet. Lui est joueur de tennis en fauteuil roulant. Elle est navigatrice. Ils sont nos invités à 6h20. France Inter, il est 6h. Le journal Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Le vaccin à dose unique Johnson & Johnson est mis en pause par les Américains. Le temps de pousser les analyses sur ces cas de thrombose avec ce produit. Le laboratoire américain retarde du coup son déploiement en Europe. La crise leur aura permis de réaliser des bénéfices exceptionnels. Et si ces entreprises étaient taxées, cette taxe pourrait s'inspirer d'un dispositif qui date de la Première Guerre mondiale. C'est une idée en tout cas de la France insoumise. Derrière la Chine, mais devant l'Inde ou les États-Unis, l'Union européenne responsable de 16% de la destruction des forêts tropicales mondiales. C'est un rapport du WWF.
Après votre journal, nous irons dans le parc naturel d'Asinara, au nord de la Sardaigne. Cet endroit se veut à la pointe de la lutte contre la pollution plastique de la Méditerranée. C'est le reportage Grand Angle.
France Inter.
C'est un nouveau revers pour la campagne de vaccination mondiale. Suspension du vaccin Johnson & Johnson aux États-Unis et retard de son déploiement en Europe.
Et à cette pause, une raison, l'apparition rare de cas de thrombose. 6 cas, dont un décès sur plus de 6 800 000 vaccinations aux États-Unis. C'est le même scénario finalement qu'avec l'AstraZeneca, car les deux sont fabriqués, Pierre Benazé, de la même manière.
La commissaire européenne à la santé, Stella Kyriakides, affirme que le vaccin du laboratoire Janssen est soumis à une étroite surveillance de l'Agence européenne du médicament et de son comité de pharmacovigilance. Aucun effet secondaire n'a été détecté en Europe et pour cause, les livraisons n'ayant commencé que ce mardi, aucun Européen n'a reçu d'injection du vaccin Janssen. Mais le retard de déploiement annoncé par Johnson & Johnson ne fait pas les affaires de l'UE. Du fait de sa dose unique et de sa facilité de conservation, il était attendu avec impatience depuis son autorisation européenne il y a un mois. Malheureusement pour les Européens, le Johnson & Johnson est le seul vaccin autre qu'AstraZeneca qui soit aussi basé sur la technique dite par adénovirus, et les thromboses détectées aux États-Unis s'apparenteraient à celles qui sont liées au vaccin AstraZeneca. L'Union a passé à Johnson & Johnson une commande de 200 millions de doses de son vaccin Janssen avec une pré-réservation de 200 millions de doses supplémentaires potentielles, soit la plus importante capacité de vaccination puisque c'est une dose unique. Pierre Benazet, France Inter, à Bruxelles.
Autre inquiétude, le variant brésilien, encore présent sur le sol français. Les autorités veulent tout faire pour le garder à distance, d'autant qu'il semble plus méchant et toucher une population beaucoup plus jeune. C'est ainsi que la France suspend toute liaison aérienne avec le Brésil. Ce contexte laisse planer l'incertitude sur les conditions dans lesquelles le pays pourrait relâcher les contraintes sanitaires à la mi-mai. Échéance optimiste fixée par Emmanuel Macron pour une vraie ouverture progressive et sous contrôle des terrasses de cafés et restaurants, et ainsi que de certains lieux culturels. En tout cas, une réunion présidée demain par Emmanuel Macron doit se tenir sur le sujet. Une crise sanitaire qui coûte très cher à l'État. Selon le ministre des Comptes publics, elle aura coûté entre 2020 et 2022 424 milliards d'euros. Olivier Dussopt le dit ce matin au Figaro.
Et si toutes les entreprises qui ont profité de cette crise étaient taxées? C'est une idée portée par la France Insoumise.
Proposition de loi examinée ce matin en commission des finances dans le viseur de Jean-Luc Mélenchon. Les GAFAM, ces géants de l'agroalimentaire, les laboratoires pharmaceutiques. Maxence Lambrecht, sur cette taxe sur les profiteurs de la crise, s'inspire d'un dispositif né pendant la Première Guerre mondiale.
Juillet 1916, le Parlement instaure une contribution sur les bénéfices exceptionnels réalisés pendant la guerre.
Elle avait été adoptée, pour vous dire, à 470 voix pour et une voix contre, donc elle avait fait très très largement consensus à l'époque.
Mathilde Panot, députée de la France Insoumise, rapporteure de ce texte, veut taxer à 50% les surplus de bénéfices réalisés l'an dernier, notamment par les géants du numérique.
Facebook et Google, c'est 7 milliards, 6 milliards pour Apple, 19 milliards pour Microsoft. Là, je vous parle que des profits supplémentaires. Ce n'est pas leur profit total.
Autre cible, Sanofi. Le laboratoire français a vu son bénéfice net quadruplé entre 2019 et 2020.
Sanofi a eu des millions d'argent public via notamment le crédit d'impôt recherche, continue de licencier et passer de 11 centres de recherche à 4 aujourd'hui et maintenant veut aller jusqu'à 3. Avoir en plus des taux de surprofit tels qu'ils ont aujourd'hui, ce n'est pas décent, moral et juste pendant une crise telle que celle qu'on est en train de vivre.
Une période où les pompes funèbres voient aussi leurs profits augmenter. Mais le leader français, OGF, réalise moins de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il échapperait donc à cette taxe réservée aux grands groupes. Une taxe dont le gouvernement ne veut pas, mais qui figurera sans doute dans le projet présidentiel de Jean-Luc Mélenchon.
Maxence Lambrecht. Les 20 et 27 juin, la date des élections régionales est désormais fixée. C'est ce qu'a proposé hier Jean Castex, le Premier ministre député. Élection maintenue donc, comme le souhaitait en grande majorité l'opposition, de droite et de gauche, qui peut désormais se concentrer sur ses échéances. Élodie Forêt.
De la visibilité, c'est ce que souhaitaient de nombreux candidats. Aujourd'hui, rassurés par ce maintien, désormais on est tous en campagne, lance un ténor socialiste. Nous, on était déjà à fond, raconte Mathieu Orphelin, candidat dans les Pays de la Loire, qui ne croyait pas un report possible. Côté LR, on avait là aussi tout misé sur un maintien, y compris l'avenir du parti, puisque depuis des mois, la direction s'acharne à vouloir attendre les régionales avant de trancher la question du candidat à la présidence. Une haie après l'autre, s'amuse à répéter Christian Jacob. Nous n'avions pas de plan B en cas de report, admet un cadre. Les patrons de région, Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez, eux en tout cas se réjouissent. Laurent Wauquiez était très énervé quand le gouvernement a lancé la consultation des maires, raconte un ami. Il craignait le report, lui qui espère tant que l'élection régionale lui redonne une légitimité nationale. Plus cool, selon son entourage, Xavier Bertrand, qui s'est déjà déclaré pour la présidentielle afin de s'affranchir du calendrier électoral. Même si le patron des Hauts-de-France le sait, il peut difficilement se passer d'une victoire locale s'il veut devenir le champion incontesté de la droite.
Élodie Forêt, un classement à présent dont l'Union européenne et en particulier la France se serait bien passée. Pas de quoi être fière, selon le WWF, le Fonds mondial pour la nature. Elle est l'une des championnes mondiales de la déforestation, si l'on en croit le dernier rapport sur le sujet qui sort aujourd'hui. En cause, les importations massives de soja, d'huile de palme, de viande de bœuf qui auraient entraîné la perte de 4 millions d'hectares de forêt, soit 5 millions de terrains de football. Or, les États n'arrivent pas à freiner les ravages de cette déforestation. Véronique Andrieux, directrice générale du WWF France, elle demande à l'Europe des mesures plus coercitives.
À ce jour, rien n'empêche que des produits liés à la déforestation se retrouvent sur nos rayons de supermarché ou à la pompe. L'Union européenne est numéro 2 au podium de la déforestation, après la Chine et devant l'Inde et les États-Unis. 80% en fait de la déforestation est liée à quelques produits seulement, notamment le soja, l'huile de palme ou la viande de bœuf. On importe en tant qu'Européens 35 millions de tonnes de soja par an pour nourrir le bétail. Et c'est du soja souvent qui est importé du Brésil avec aucune garantie qu'il n'y ait pas de déforestation. Ça, c'est un exemple très concret, ou encore l'huile de palme pour les agrocarburants dans nos moteurs. On n'a pas réussi à stopper la déforestation. La déforestation continue. Donc, il y a absolument urgence à adopter une législation européenne de lutte contre la déforestation et la conversion qui soit à la hauteur des enjeux.
Véronique Andrieux, directrice générale de WWF France, interrogée par Célia Kiré. Le dispositif alerte enlèvement a été levé concernant Mia, une petite fille de 8 ans enlevée dans les Vosges. Elle n'a pas été retrouvée, mais l'enquête se poursuit. Le dispositif avait été déclenché hier après que l'enfant ait été enlevé par 3 hommes alors qu'elle était chez sa grand-mère dans les Vosges. L'enfant pourrait être accompagné de sa mère qui n'est pas autorisée par la justice à voir son enfant toute seule.
Il est 6h08, le PSG au bout de la souffrance.
Même battu 1-0 par le Bayern Munich hier soir, il s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions pour la deuxième année d'affilée après son exploit de l'aller, 3-2, on s'en souvient. Même scénario pour Chelsea, battu par Porto 1-0, mais qualifié. Alors après le PSG et Chelsea, qui d'autre en demi-finale? Réponse ce soir avec les rencontres Real Madrid, Liverpool ainsi que Manchester City, Dortmund. J-100 pour la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo, des Jeux Olympiques au goût de pandémie, puisque le 23 juillet, dans la capitale japonaise, eh bien, il n'y aura pas de spectateurs étrangers. Une première fois repoussés, ces Jeux vont offrir à des milliers de sportifs et à des milliards de téléspectateurs un spectacle que les organisateurs espèrent à la hauteur. Malgré une préparation contrariée pour de nombreux athlètes, certains d'entre eux seront néanmoins en quête d'un exploit, Jérôme Val.
Sur la piste du stade olympique notamment, où il va bien falloir trouver un successeur à l'ex-roi du sprint Usain Bolt, le prodige Noah Lyles est sur les rangs pour devenir le premier américain depuis Carl Lewis à réaliser le doublé sur 100 et 200 mètres. Une autre américaine, Simone Biles, déjà lestée de 4 titres à Rio en gymnastique, va s'attaquer au record de 9 médailles d'or détenues par la soviétique Larissa Latinina. C'était il y a plus de 60 ans. Le record, c'est aussi l'obsession de Teddy Riner. Le français pourrait devenir le premier poids lourd triple champion olympique, qui plus est au pays du judo. Florent Manoudou ira lui chercher dans le centre aquatique de Tokyo une deuxième médaille d'or, 9 ans après son premier sacre. Roger Federer partira au Japon en quête du seul titre qui lui manque, l'or olympique en simple. Le Suisse fêtera ses 40 ans cet été. À l'autre bout de l'échelle du temps, le jeune Suédois Armand Duplantis, 21 ans, le perchiste le plus haut du monde avec un saut à 6,18 m, tentera de glaner lui son premier succès au jeu.
Jérôme Val, et on en reparle de ces JO de Tokyo, Mathilde, avec vos invités tout à l'heure.
Oui, deux sportifs à 6h20, le joueur de tennis en fauteuil roulant Stéphane Oudet et la navigatrice Manon Audinet. Ils nous raconteront à quel point leur préparation est perturbée avec ces JO sous Covid. C'était le journal de Laurence Thomas, il est 6h10.
Aujourd'hui sur France Inter, le manga expliqué aux parents.
10h, Thomas Chauvineau.
Tant grand bien vous fasse, nous vous dirons tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le manga sans jamais oser le demander. Si One Punch Man, Demon Slayer ou One Piece ne vous évoquent rien, sachez qu'il s'en vend chaque année plus de 20 millions d'exemplaires. Et on attend vos questions, vos témoignages dès maintenant au 01 45 24 7000.
Grand bien vous fasse, la vie quotidienne en mode interactif.
Du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 10h.
Ok, antidiscrimination avec un S.fr. Il y a un numéro, le 3928. Ah, et on peut chatter en direct. Allez, je me lance.
Victime ou témoin de discrimination, les juristes du Défenseur des droits vous accompagnent gratuitement sur antidiscrimination.fr ou au 3928. Du lundi au vendredi de 9h à 18h, prix d'un appel local.
6h11.
France Inter. Mathilde Munoz, Le 5-7.
Plus de 100 tonnes de déchets marins et notamment du plastique ont été récupérés ces 4 dernières années en Italie. 170 000 personnes se sont mobilisées pour nettoyer plages et fonds marins dans le cadre du projet Clean Sea Life. Mais maintenant que ce programme est terminé, que va-t-il en rester ? A-t-il permis de sensibiliser durablement la population ? L'île d'Asinara nous donne de l'espoir. Elle se situe au nord-ouest de la Sardaigne. Elle abrite l'un des plus beaux parcs naturels européens. Adultes et surtout enfants ont pris conscience qu'il fallait le préserver et que la Méditerranée était fragile. Reportage grand angle de Bruce de Galzin.
Et vous respectez la règle quand on a
à l'école primaire Borgona à Porto Torres, juste en face de la réserve naturelle de l'Asinara, les élèves sont déjà sensibilisés au danger du plastique. Pietro n'a que 6 ans.
C'est molto inquinante.
C'est très polluant. Le plastique, ça peut aussi faire mourir tous les animaux dans la mer. Parce que si on jette le plastique, les animaux le mangent. Ça fait de gros dégâts.
Les élèves ont participé au projet européen Clean Sea Life. Mais ici, dès le CP, on parle environnement et on en parle presque tous les jours. Sur son bateau de pêche, Lorenzo Niedu est bien conscient de ce changement de mentalité. Avec la trentaine de pêcheurs de Porto Torres l'an dernier, pendant 3 jours, ils ont ramassé 187 kilos de déchets marins.
Il y a 35 ans déjà, dans les années 85-86, on a fait les premières collectes et on ramassait tous les déchets. Il y en avait peut-être même plus qu'aujourd'hui. À cause de la zone industrielle qui rejetait des microplastiques, ils s'envolaient et atterrissaient dans la mer. Mais aujourd'hui, heureusement, elle a fermé et on est bien plus sensible à l'environnement, surtout les jeunes.
Et surtout ici, en face de la réserve naturelle de l'Asinara, où les dauphins des baleines même sont visibles, car la zone est propre et protégée. Nous embarquons pour l'île et son centre de récupération des animaux marins, avec Laura Piredou, la directrice du centre, qui soigne en ce moment 4 tortues marines. Elle est inquiète en pensant aux milliards de masques utilisés puis jetés.
On n'en a pas encore trouvé dans les intestins des tortues, mais à mon avis c'est une question de temps. Au niveau environnemental, c'est vraiment un désastre. On conseille de couper au moins les élastiques avant de jeter le masque et de le jeter dans une poubelle, car ils peuvent étrangler plusieurs animaux marins et notamment les tortues.
Grâce au projet Clean Sea Life, 112 tonnes de déchets ont été ramassées en 4 ans au large des côtes italiennes. Mais selon le dernier rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature, chaque année, 230 000 tonnes de déchets plastiques sont déversées dans la Méditerranée.
C'était le reportage grand angle de Bruce de Galzin, correspondant de France Inter en Italie. 6h14, voici l'Esprit Sport. Bonjour Xavier Monferrand.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous.
Ce matin, vous nous parlez d'une sacrée prise.
Oui, rien à voir avec la pêche, non. C'est plutôt un joli coup réalisé par le volley français et son équipe masculine. Les garçons qui sont qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été seront dirigés par leur actuel sélectionneur Laurent Tilly, qui tirera sa révérence après ce dernier tour de piste au Japon. Et après 9 ans de bons et loyaux services et les premiers titres glanés par Laurent Tilly. Il fallait donc quelqu'un de costaud pour passer derrière. Et la fédération française a frappé fort, faut bien le reconnaître, puisqu'après les Jeux de Tokyo, elle va confier les clés de l'équipe de France masculine à une star de la discipline. Il s'appelle Bernardo Resende, dit Bernardinho. Alors comme ça, ça ne vous dit peut-être rien, ou alors vous confondez avec le footballeur Ronaldinho, mais Bernardinho, c'est tout simplement ce qui se fait de mieux à ce poste. L'entraîneur ultime de volley, c'est lui, c'est une légende vivante. Bernardinho, c'est 7 médailles olympiques, dont 2 en or en tant qu'entraîneur du Brésil, dont la dernière à Rio en 2016, mais aussi 3 titres de champion du monde. À bientôt 62 ans, il avait arrêté la sélection après les Jeux de Rio pour s'occuper des filles du club de Flamengo à Rio de Janeiro. C'est là que le volley français est allé le chercher et l'a convaincu de porter les bleus jusqu'à Paris 2024, comme l'explique le président de la fédération, Eric Tanguy, au micro de Marine Clette.
C'est très prometteur, on a aujourd'hui l'entraîneur le plus titré de l'histoire du volleyball, donc quasiment l'entraîneur le meilleur du monde. Et avec une expérience qu'il a, c'est tout ce qui nous manque en fait. Notamment l'expérience de s'organiser pour gagner les Jeux dans son pays, qui n'est pas la même chose que d'aller les gagner à l'étranger. Il y a une pression supplémentaire quand on joue à domicile. C'est l'expérience dont on avait besoin.
Et c'est une star dans son pays.
Ah oui, si vous croyez qu'au Brésil, il n'y a que le foot, eh bien détrompez-vous, le volley est extrêmement populaire. Et justement, il a été popularisé par Bernardo Resende et la Geração de Prata, la génération d'argent qui a conduit le volley brésilien vers les sommets avec les premières médailles au Mondial 82 et au JO de Los Angeles en 84. C'est un peu l'équivalent de nos Barjots du hand en France. Du coup, Bernardinho, le passeur devenu entraîneur à succès, est vraiment une star au Brésil. est-il l'une des personnalités sportives les plus populaires, en dehors des joueurs de foot comme Neymar, vous l'imaginez bien, avec l'ancien joueur de tennis Guga, Gustavo Kuerten, un ancien vainqueur de Roland-Garros. Si populaire même, Bernardinho, qu'il s'est lancé dans la politique ces dernières années avec l'ambition de devenir gouverneur de Rio. Mais là, il n'a pas eu le même succès qu'au volley parce que finalement, les deux fois, il a préféré ne pas y aller.
C'était l'Esprit Sport de Xavier Monferrand. 6h17 de l'Esprit Sport, on passe à l'Esprit d'Initiative. Philippe Bertrand, votre invité veut rendre l'art plus visible et plus accessible.
Héritée de la mythologie, la boîte de Pandore contiendrait tous les malheurs du monde. Celle que je vous soumets aujourd'hui est susceptible de contenir au contraire tous les trésors du monde, à commencer par ceux des musées. Cette boîte est un conteneur transformé en espace d'exposition qui favorise la diffusion de la culture hors les murs, à plus forte raison, lorsque les lieux d'exposition sont fermés. On doit cette étrange idée à Anatole Boulle, archéologue passionné d'architecture et créateur de l'atelier Pandore, à Strasbourg. Anatole, bonjour.
Bonjour.
Vous proposez trois types de boîtes, la boîte vitrine, la boîte musée, la boîte sur mesure.
Exactement, c'est ça. La boîte musée, en réalité, c'est le produit le plus développé, qui a en fait des très grandes performances de conservation et de sécurité pour des œuvres potentiellement originelles qui pourraient sortir des collections privées ou publiques. Alors que les boîtes vitrines, par exemple, ce sont des grandes baies vitrées, toujours sous la forme de conteneurs maritimes, mais dont les performances, en fait, thermiques notamment, sont moins importantes. Et donc, on peut pas y mettre, par exemple, d'originaux à l'intérieur, mais plutôt des copies. Et enfin, les boîtes sur mesure, c'est une petite pirouette pour dire qu'on est aussi capable de construire des boîtes, en fait, sur mesure, aux besoins de nos clients, avec la forme, avec les caractéristiques dont il aurait besoin.
Et vous avez déjà éprouvé ces boîtes à Strasbourg?
Exactement, on a commencé l'activité avec ces boîtes en septembre 2020, avec une exposition qui a duré un mois et demi dans un quartier périphérique de Strasbourg qui s'appelle Königshofen. C'est une exposition qui parlait des rites funéraires antiques. Et donc on a présenté des copies d'œuvres antiques retrouvées en fait dans le quartier quelques années auparavant, grâce à des fouilles archéologiques d'ampleur qui ont été menées dans le quartier.
Ouais. Le résultat est fascinant, mais alors il faut d'énormes moyens pour découper sur mesure des conteneurs.
Alors d'énormes moyens, en fait, on a fait ça un peu à la façon dont on construirait une maison, avec une dizaine de corps de métier qui se sont enchaînés. Au total, ça représente quand même un investissement de près de 120 000 euros pour cette boîte de type musée, qu'on met ensuite à disposition des porteurs de collection sous la forme de location pour que les coûts soient plus abordables.
Et comme je disais, selon la mythologie, la boîte de Pandore contient tous les malheurs du monde.
Alors, elle contenait tous les malheurs du monde jusqu'à ce que Pandore l'ouvre, puis ses mots se déversent. Et en réalité, il y a différentes versions de l'interprétation de ce mythe, puisque au moment où Pandore referme la boîte, reste à l'intérieur ce qui a été traduit dans notre jargon contemporain par l'espoir. Et donc, en réalité, la boîte de Pandore fait de nous des êtres humains, mais garde voilà, de ce dernier mal, qui est cette capacité qu'on aurait pu avoir à avoir toujours le pire. Quoi.
Tel un Héphaïstos, Anatole a conçu cette boîte musée Pandore. Atelier trait d'union pandore.fr. Merci Anatole.
Merci à vous.
C'était Philippe Bertrand pour l'Esprit d'Initiative.
France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h20, dans tout pile 100 jours, la flamme olympique devrait briller dans le stade de Tokyo, donnant ainsi le coup d'envoi d'une compétition qui aurait dû avoir lieu l'été dernier, mais l'épidémie de Covid a tout bouleversé. Même avec ce report, ces Jeux olympiques ne seront pas des Jeux comme les autres. Deux athlètes sont avec nous ce matin, Manon Audinet qui est navigatrice et Stéphane Houdet qui est joueur de tennis en fauteuil roulant. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Manon Audinet, je vais commencer par vous. Ce seront vos premiers Jeux Olympiques. Vous faites du catamaran. Où en êtes-vous de votre préparation? On fait quoi à 3 mois des Jeux?
Nous, on a eu la chance de pouvoir trouver un super lieu d'entraînement pour cet hiver. On a passé les 5 derniers mois à Lanzarote, aux Canaries. Donc, on est plutôt content et pas en retard sur la feuille de route. Voilà. Après, il reste encore 3 mois pour peaufiner tous les petits réglages. Donc, c'est en même temps loin et ça se rapproche à grands pas.
Et pour vous, Stéphane Houdet, tout se passe bien, la préparation, pas de retard?
Alors, pas de retard sur la préparation, d'autant que les joueurs de tennis se retrouvent avec beaucoup de tournois et ça veut dire pour nous, là, en ce moment, la préparation de Roland-Garros.
Votre objectif, là, c'est Roland-Garros. Les Jeux, vous n'y pensez pas encore?
Ah bah c'est vrai qu'on a l'habitude de faire un découpage de notre programme annuel. On a tous les jeux dans un coin de la tête, surtout à J-100, mais Roland-Garros est aussi bien présent dans les esprits.
Oui, ça a toujours une saveur particulière quand on est un joueur français. Dites-moi, est-ce que le report d'un an de ces JO vous a contrarié, Stéphane Oudet ?
En fait, non, parce que on a une grosse vingtaine de tournois à préparer tout au long de l'année. Et cerise sur le gâteau, une fois tous les 4 ans de participer au jeu. Moi, j'avais pas prévu que ce soit le point d'orgue de ma carrière. Et en tout cas, le point final, comme on a la chance d'organiser les Jeux de Paris en 2024, eh bien, 20 ou 21, ça restait dans le cycle olympique et paralympique.
Je l'ai pas précisé, mais pour vous, ces Jeux, ce seront vos 4e Jeux paralympiques. Manon Audinet, je retourne vers vous. Vous, je le disais, ce seront vos premiers Jeux. Vous êtes dans quel état d'esprit? Le stress commence à monter? C'est quoi? C'est l'excitation ou l'inconnu parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer, l'organisation, le protocole sanitaire sur place? Dites-moi comment vous êtes en ce moment.
Ouais, pour le moment, on ne sait pas exactement dans quelles conditions on pourra être là-bas. On ne sait pas encore exactement combien de temps en avant on pourrait y être aussi. Donc nous, en voile, on aime bien arriver quelques semaines avant pour s'approprier un peu le plan d'eau. Là, je pense que ce ne sera pas vraiment possible. Donc moi, pour le moment, je ne suis pas forcément stressée. Moi, mon stress arrive plutôt le soir avant la compétition. Mais pour le moment, on est plutôt encore dans une phase d'apprentissage. Et ça nous laisse encore le temps d'appréhender ce que pourront être les conditions là-bas une fois sur place.
Mais là, ça veut dire que vous n'avez pas encore vos billets d'avion ?
Non. non, on les a pas encore.
Et vous non plus, Stéphane Oudet ?
Non, mais ça, c'est une gestion qui est faite par... Oui, tout à fait.
D'accord.
Ce sont des épreuves qui sont gérées par les équipes de France. Donc, on est pris en charge et on sait qu'on aura nos billets.
Et vous savez s'il faudra que vous arriviez longtemps en avance, si vous aurez une quarantaine, si, je sais pas, les organisateurs exigent que vous soyez vacciné. Vous êtes au courant de tout ça ou pas encore?
Pour nous, on ne sait pas encore si on doit faire une quarantaine chez nous en France ou alors une fois arrivé sur place. Pour le vaccin, apparemment, ce sera pas forcément obligatoire parce que le seul qui est autorisé au Japon, c'est le vaccin chinois qu'on n'a pas en Europe. Donc voilà, il y a encore pas mal de questions en suspens autour de tout ça.
Et d'autres questions, j'en ai plein aussi. Est-ce que vous savez si vous pourrez participer à la cérémonie d'ouverture, s'il y aura comme d'habitude le défilé, le traditionnel défilé des athlètes, Stéphane Oudet ?
Eh ben, c'est une question que je me suis posée hier. J'imagine qu'on va faire une cérémonie. Je ne sais pas si elle sera digitalisée ou sous quelle forme elle se fera, mais c'est la jauge. Le public, on ne sait pas non plus. On sait que ce sera essentiellement un public de locaux.
Oui, il n'y aura pas de public étranger.
Pas de public étranger, sauf ceux qui habitent là-bas. Et maintenant... Oui.
Vous qui avez connu déjà trois Jeux paralympiques, vous craignez que ce soit un peu des Jeux un peu tristounés, parce que d'habitude c'est quand même la fête, c'est un événement extraordinaire les Jeux Olympiques.
C'est vrai, mais en même temps j'imagine comme ça s'est fait, là on a joué plusieurs tournois dans ce cadre-là, alors l'Australian Open il y avait un petit peu de monde, mais juste avant à New York où il y avait personne, le stade était vide, ils ont créé autour de l'événement pour faire en sorte que le public soit malgré tout présent. On a joué une finale du double avec mon compatriote Nicolas Pfeiffer sur le court central de Flushing Meadows et on avait des écrans géants sur les côtés qui reproduisaient ce qu'on appelle le box des joueurs et donc on avait un écran qui était divisé en 6 ou 8 et nos entourages étaient présents sous forme numérique.
Ah oui.
Vidéo. Et bon, c'est drôle quand on le fait une fois dans sa vie, finalement on a trouvé un côté positif à tout ça.
Pour rebondir à ce que vient de dire Stéphane Oudet, Manon Audinet, vous aurez le droit de venir accompagner ou vos proches devront rester en France ?
Je pense qu'ils resteront en France. C'était pas forcément prévu que ma famille vienne sur place. Donc je pense que non, on sera un petit peu tout seul avec toute l'équipe de France. Donc on restera quand même accompagné avec des gens qu'on aime bien autour de nous. Mais les proches, je pense qu'ils regarderont ça à la télé.
Et tout ce qui est de la logistique sur place, dans quelles conditions vous serez hébergé, comment ça va se passer pour les repas, les trajets, est-ce que vous serez vraiment dans une bulle? Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? Je ne sais pas lequel des deux veut répondre.
Pour ma part, oui, je pense que ce sera assez strict. Je pense que ça va plutôt prendre la forme d'une bulle. Voilà, c'est pas encore 100% sûr, mais on en entend de plus en plus parler. Voilà, je pense que c'est des conditions qu'il faut accepter. Il faut se préparer peut-être un petit peu en amont pour être prêt à passer pas mal de temps tout seul et à réussir à trouver des moyens de pas tourner en rond et de bien s'occuper. Mais voilà, tout le monde sera dans les mêmes conditions. Il faut juste être bon pour les gérer et anticiper tout ça.
Une dernière question, Stéphane Houdet. Est-ce que vous craignez qu'au dernier moment, tout soit annulé? Est-ce qu'il y a toujours ce risque?
Non, j'y crois pas du tout. Simplement parce que j'ai pu participer à de grandes épreuves qui sont allées au bout de l'organisation. L'Australian Open a vécu des rebonds avec des cas positifs qui se sont déclarés alors qu'ils étaient à 0 cas à Melbourne. Et malgré cela, ils ont continué à gérer le contexte sanitaire et le contexte sportif. Je pense que les Japonais qui viennent en plus d'ouvrir un parc d'attractions cette semaine ou la semaine dernière vont gérer de la même manière. On a eu des exemples et maintenant, je dirais, entre guillemets, pour les athlètes paralympiques, ça roule.
Stéphane Houdet, merci beaucoup. Merci également à vous, Manon Audinet. Et bonne préparation, bonne suite de cette préparation pour les Jeux Olympiques à tous les deux. Vous étiez les invités du 5-7.
France Inter.